Chapitre 15. Gina, 1962-1985. Peu après la mort de mon père, en même temps que j'entamais ma nouvelle vie dans l'ébénisterie Colbert, j'ai commencé à ressentir l'envie folle de devenir mère. Je ne pourrais pas expliquer pour quelle raison. On parle souvent d'horloge biologique, je ne sais pas si ça existe vraiment. Et j'ai toujours pensé que chaque femme avait bien le droit de faire ce qu'elle voulait de son corps. Jusqu'à la mort de mon père, je me considérais clairement comme une enfant. Une enfant de 27 ans qui travaillait et gérait un foyer, certes, mais une enfant avant tout. Ma vie, c'était mon père et moi. Je me suis demandé si ce désir de maternité était lié à la solitude dans laquelle je me retrouvais soudain, ou, pire encore, s'il était le fruit d'un furieux besoin de rentrer dans le rang, de faire comme tout le monde. Mais ça n'était pas le cas. Je ressentais au plus profond de mon être la volonté de porter un bébé durant 9 mois, de le sentir grandir en moi, de lui donner le sein, le bercer, le cajoler, puis l'aider à devenir un petit être à la fois indépendant et tellement proche. Chaque fois que je croisais une femme avec une poussette, c'était comme un coup de poignard et l'envie se mêlait à l'angoisse. À l'époque, on disait que passé 30 ans, les femmes n'étaient plus bonnes à marier, plus bonnes à faire des enfants, que la machine était cassée. Alors j'avais peur et je me disais qu'il fallait faire vite. Avais-je une libido inférieure à la norme? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est certaine. J'étais ignare dans de nombreux domaines, y compris l'amour et le sexe, et je n'avais jamais vraiment été attirée par personne. Une no-life. J'ai entendu cette expression l'autre jour dans un reportage, et je me suis dit que c'est comme ça que les jeunes d'aujourd'hui m'auraient appelée, s'ils m'avaient connue dans ma vingtaine. En ce début des années 1960, j'ai commencé à me rendre dans des dancings. Je n'étais pas surprise d'avoir du succès. Je me savais plutôt jolie, les garçons m'accostaient dans la rue, je les repoussais systématiquement, parfois en riant, parfois avec la plus grande fermeté. J'ai éperdument aimé cette période de danse et de fête qui s'apparentait à une deuxième naissance. Mais malgré tous mes efforts, je ne suis tombée amoureuse d'aucun homme. Et mes relations n'ont jamais dépassé le stade du simple baiser furtif. Le feu ne prenait pas. C'était d'une frustration extrême, car le mariage était évidemment la seule solution à ce qui me tourmentait. Si je voulais devenir mère, il faudrait bien que j'accepte les avances de l'un de ces messieurs. Ça n'est pas au dancing, mais dans l'atelier de M. Colbert que j'ai rencontré Nino. Nous étions de simples collègues. Puis un jour, le patron nous a demandé de travailler en binôme pour des clients et nous sommes devenus de vrais amis, inséparables. Je n'avais jamais ressenti une telle affection pour quiconque. Ça n'était de l'amour pour aucun de nous deux. Tout était extrêmement clair. Nino était issu comme moi d'une famille d'immigrés italiens. Devenir ébéniste, salarié, était déjà en soi une élévation sociale considérable. Mais Nice ne suffisait pas à Nino. Il rêvait de la capitale. Ne parlait que de Paris, ses folles soirées et la liberté que seule la ville lumière pouvait accorder aux gens comme lui. J'ai compris ce qu'il voulait dire le soir où il m'a présenté à son cercle d'amis proches. Nino était un grand gaillard musclé qui portait de lourdes charges sans effort apparent. Les filles se pâmaient, les clientes flirtaient, mais Nino aimait les garçons. En France, le début des années 1960 est synonyme de pudibonderie à tous les étages. C'est à ce moment-là qu'apparaît à la télévision le carré blanc, ce signal d'avertissement visant à protéger les jeunes enfants d'un morceau de peau un peu trop suggestif. L'homosexualité est inscrite dans la loi comme un fléau social, au même titre que la tuberculose ou la toxicomanie. Être homo est honteux. Alors Nino fait comme tout le monde. Il vit depuis toujours en portant un masque, surveillant constamment son langage, ses gestes. Ne surtout pas se trahir, se forcer à rire des plaisanteries sur les PD, inventer des liaisons féminines, embrasser des jeunes femmes et les tenir par la main pour donner le change, vivre caché, la peur au ventre, par crainte des violences, du jugement. Je ne sais pas pour quelle raison Nino a décidé de me livrer son secret. sans doute parce que M. Colbert me faisait confiance et que M. Colbert avait compris pour Nino. Il le protégeait autant qu'il le pouvait. Nino rêvait du grand amour. Nino était léger. Nino était merveille. Entre nous, s'est développée une relation complexe. Plus le temps passait, plus nous nous aimions. Nino me racontait tout, et je ne lui cachais rien de mes tourments. Il était comme un frère. C'est Nino qui m'a appris les choses de la vie. Mon père ne m'avait jamais expliqué quoi que ce soit, et après la mort de ma mère, il n'y a plus jamais eu de présence féminine. Alors je ne savais rien de rien. À mesure que Nino me décrivait l'acte sexuel, je rougissais tout en étant choquée. Je lui demandais comment il était possible de ne pas souffrir physiquement lorsque le membre masculin pénétrait à l'intérieur de la femme. J'utilisais ce genre de termes et cela faisait mourir de rire Nino, qui patiemment m'expliquait les notions de plaisir, d'orgasme, m'encourageait à me toucher pour découvrir mon corps. Cette conversation que j'aurais dû avoir au moment de ma puberté n'intervenait qu'à l'aube de mes 30 ans. Au printemps 1962, j'ai rencontré un joli garçon prénommé Germain. Il était séduisant, me paraissait être un beau parti. Il habitait Cannes et venait danser à Nice tous les samedis. Pendant plus de 2 mois, il m'a fait une cour assidue et exclusive. Nino m'encourageait à aller plus loin, tout en me mettant en garde. Il valait mieux, pour rester une jeune femme honorable, ne pas fauter avant le mariage. La contraception était interdite. La loi légalisant la pilule ne serait votée que 5 ans plus tard. Mais Nino avait pris le temps de m'expliquer ce qu'il me faudrait demander au garçon pour éviter de tomber enceinte. Lorsque ce soir de janvier 1962, j'ai accepté que Germain me suive chez moi, j'étais animée d'une grande curiosité. Je n'étais pas amoureuse, non. Mais je me disais que tout cela viendrait sûrement après le mariage. Germain s'est montré entreprenant. Je lui ai demandé quelles étaient ses intentions avec moi avant d'aller plus loin. Pensait-il m'épouser bientôt? Il a eu l'air surpris, m'a assuré qu'il ne pensait qu'à s'unir à moi. Alors, je lui ai demandé de ne pas me mettre enceinte en utilisant les mots que Nino m'avait conseillés, puis je me suis abandonnée à lui. Nino m'avait parlé de plaisir, mais c'est resté très théorique. Germain a été doux, mais j'ai eu mal, et j'avais hâte que ça se termine. À l'issue de la chose, Germain avait l'air satisfait, un grand sourire sur les lèvres. Il m'a demandé si ça m'avait plu. J'ai répondu poliment que oui, même si j'espérais secrètement pouvoir me soustraire à l'avenir à ce que l'on nommait le devoir conjugal. Je lui ai demandé s'il avait bien pris ses précautions, il a acquiescé. J'ai senti une matière visqueuse couler le long de ma cuisse. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a indiqué que c'était normal après avoir fait l'amour. Puis il m'a embrassé et s'est enfui en me souhaitant une bonne nuit. Il n'est plus jamais revenu à Nice. Nino a enquêté et nous avons appris qu'il était en fait un marin en escale pour quelques mois à Toulon. Personne ne connaissait son vrai prénom. Aussi, le ciel m'est-il tombé sur la tête lorsque je n'ai pas eu mes règles, quelques semaines plus tard. La joie que j'aurais dû ressentir s'est mêlée à la honte. Nino m'a demandé de lui décrire précisément ce qui s'était passé et j'ai compris que j'avais été une belle andouille. Pendant une semaine, j'ai été incapable de savoir quoi faire. Je le voulais, cet enfant, mais pas dans ces conditions. À cette époque, les femmes enceintes hors mariage étaient considérées comme des traînées. Leurs enfants n'avaient pas une enfance comme les autres. J'avais peur. J'étais perdue. Et puis est arrivé ce 14 juillet 1962 qui a fait basculer nos vies. Tard dans la nuit, Nino est venu se réfugier chez moi. En ce soir de fête, il avait bu et relâché sa vigilance. En rentrant du dancing, 5 hommes l'ont poursuivi en l'insultant. Nino est parvenu à les semer, mais il a eu la peur de sa vie. Dieu sait ce qu'il aurait pu se passer si ces hommes l'avaient rattrapé. Mon ami ne se sentait plus en sécurité, et s'il l'attendait de nouveau, un jour. Nino n'avait qu'une idée en tête, fuir cette ville, partir s'installer à Paris. Je lui ai offert de rester dormir chez moi, mais nous n'avons pas fermé l'œil. Nous avons discuté toute la nuit, et ses angoisses se sont mêlées à la décision qu'il me fallait prendre de mon côté. C'est au cours de ces quelques heures qu'est né le projet fou qui allait conditionner la suite de notre existence. Cette nuit-là, le mariage est devenu, pour nous deux, une évidence. Pour moi, c'était la possibilité d'avoir mon enfant dans de bonnes conditions, tout en lui offrant une famille, une normalité apparente. Sa mère serait une femme convenable, mariée à un homme gentil, beau et travailleur. Pour Nino, le mariage était le camouflage idéal, et c'était la possibilité de devenir père. Lui aussi m'avait confié avoir rêvé de paternité. Il avait fait une croix dessus, évidemment, mais l'idée était toujours là, dans son cœur, dans ses tripes. Nino et moi, nous sommes mariés le mois suivant, et deux semaines plus tard, nous sommes partis nous installer à Montreuil, dans un modeste mais confortable appartement comprenant trois chambres, une pour moi, une pour Nino, et une pour notre enfant à venir. J'ai trouvé un travail d'ébéniste dans le 12e arrondissement de Paris et Nino un boulot de menuisier dans le 20e. Avant la naissance de notre fils, nous avons décidé de l'appeler Alain, en choisissant ce prénom français à la mode. Nino et moi voulions lui donner toutes ses chances d'intégration, couper l'herbe sous le pied de cette italianité dont chacun de nous a souffert à sa façon. Ma grossesse a été joyeuse, mais mon accouchement très difficile. Un cauchemar que je ne souhaite à personne. Pourtant, j'en ai connu des douleurs, mais aucune comme celle-ci. Alain se présentait par le siège. À l'époque, la péridurale n'existait pas et le bébé était trop engagé pour tenter une césarienne. À mesure que l'accouchement s'éternisait, que mes cris s'intensifiaient, je songeais que j'allais mourir. J'ai perdu énormément de sang. Les déchirures ont été destructrices. Lorsque j'ai été tirée d'affaire, les souffrances résiduelles étaient telles que je ne parvenais pas à ressentir d'amour pour mon fils. Je cherchais sur son visage les traits de Germain. Je n'arrêtais pas de me poser des questions. Deviendrait-il un salaud, comme son marin de père? Découvrirait-il un jour la vraie nature de mon union avec Nino? Nino resterait-il à mes côtés s'il trouvait l'amour comme il l'espérait un jour? Je ressentais une culpabilité fiévreuse à l'idée de faire naître un enfant dans une telle configuration familiale, à accepter d'ores et déjà de lui mentir toute sa vie. J'avais si peur qu'il découvre la vérité un jour et qu'il me haïsse, me rejette, que je le tenais à distance. Le paradoxe était terrible. Mon esprit faisait tout pour ne pas s'attacher à lui, tandis que mon cœur souffrait de ne pas parvenir à s'attacher. J'ai sombré dans une grande dépression. Et c'est grâce à Nino que je m'en suis sortie. Il s'est occupé d'Alain quand j'étais défaillante, m'a rassurée, prise dans ses bras, consolée un nombre incalculable de fois. Il avait confiance pour deux. Il ne cessait de me répéter que je serais une bonne mère. Petit à petit, des sentiments sont apparus et je me suis mise à y croire. À croire en moi, un peu. À croire en Nino, beaucoup. À croire à cet assemblage étrange que nous formions. À croire à cette famille. Ma famille. Et j'ai eu raison d'y croire. Nino n'a jamais déserté, et nous avons donné une enfance tout ce qu'il y a de plus normal à notre fils. J'ai aimé Alain d'un amour immense. J'ai vécu ce que vivent toutes les mères du monde. J'ai tremblé quand il avait peur. J'ai frémi lorsque je le sentais en danger. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le jour de son baccalauréat. J'ai appris ce qu'était la tristesse infinie lorsque la mort me l'a arrachée, il y a 4 ans. J'ai aimé Nino de tout mon cœur, comme un frère et comme le père de mon fils. J'ai tout vécu avec lui. Il est resté mon plus proche confident jusqu'au bout. Alain n'a jamais su que Nino n'était pas son père biologique. Nino était son père, point. Alain n'a jamais rien su non plus de la sexualité de son père. Il savait que nous faisions chambre à part, bien sûr, mais voilà, c'était comme ça que nous vivions. Plus tard, il a peut-être eu des doutes ou acquis des certitudes, je ne sais pas. Nous n'en avons jamais parlé et il n'en a rien montré. Le secret est un sport de compétition dans cette famille. Je me demande parfois s'il existe des familles qui se disent tout, de génération en génération. Personnellement, je n'en connais aucune. Est-ce que les secrets empêchent d'avancer? Oui, sûrement. Mais ils permettent aussi parfois d'embellir le chemin quand tout ne se passe pas comme prévu. De jeter un voile pudique sur les douleurs. Lorsque Nino est mort, en 1985, Alain avait pris son envol. Il ne savait pas que Nino avait trouvé l'amour depuis plus de 6 ans avec celui que l'on présentait comme son ami de toujours, Francis. Il ne savait pas non plus que j'avais moi aussi rencontré l'amour de ma vie.